VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a affirmé ce vendredi qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur l'accord en question. Et ce, à l'ouverture du sommet Union européenne-Chine à Bruxelles. La réunion annuelle de ces deux géants économiques est dominée par le dossier du climat et les questions commerciales. La Chine défend toujours les règles multilatérales, y compris les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a souligné aujourd'hui le Premier ministre chinois Li Keqiang. Comment a-t-on réagi en Afrique au retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat? Claire Morin-Gibourg a joint le président de l'ONG Carbon Guinée, Ibrahima Sorisila.
L'accord de Paris était un élément d'équilibre entre les pays développés et les pays sous-développés. Et Donald Trump a fait cas à plusieurs fois et sur le fond vert qui pouvait aider certes ici les pays africains à faire un développement sombre en carbone. Du coup, avec ce retrait, nous ne savons pas où mettre la tête parce que souvent dans les discussions, le gros mot c'était quoi? Comment les pays africains pouvaient trouver des fonds nécessaires pour un développement en sombre carbone.
Ibrahima Sorisila, président de l'ONG Carbone Guinée. Autre réaction africaine, celle de l'ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Ali Haïdara.
On a mis une vingtaine d'années pour trouver des accords et en cinq minutes, on veut en sortir. C'est toujours le même scénario quand vous avez une multinationale qui fait un dégât concernant l'environnement. Et il y en a beaucoup d'exemples en Inde, partout dans le monde, des pétroliers qui échouent, qui causent des dégâts écologiques extrêmement importants. On met des années et des années en justice avant de dédommager l'environnement ou les gens concernés. Contrairement à ça, quand c'est les multinationales qui, elles, veulent une loi ou veulent être protégés, c'est tout de suite que ça se fait. C'est toujours l'éternel problème qui revient. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que les accords de Paris sont une contrainte économique pour les pays qui veulent les respecter. Si les États-Unis ne veulent pas les respecter, ça veut dire qu'ils vont avoir un avantage économique sur les autres pays.
Ali Haïdara, secrétaire général des associations de protection de l'environnement au Sénégal. Actualité américaine, l'administration du président Donald Trump a saisi la Cour suprême jeudi soir afin que la plus haute instance judiciaire des États-Unis rétablisse son décret anti-immigratoire suspendu fin mai par la Cour d'appel de Virginie. Ce décret réécrit par l'administration Trump après avoir été une première fois suspendu par la justice américaine vise à interdire l'entrée aux États-Unis aux réfugiés du monde entier ainsi qu'aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans. Iran, Libye, Somalie, Syrie, Soudan et Yémen. Cet appel du gouvernement américain à la Cour suprême est intervenu une semaine exactement après la nouvelle suspension de ce décret par la Cour d'appel de Richmond en Virginie le 25 mai. Afrique centrale maintenant, Washington a sanctionné un général proche du président de la RDC, Joseph Kabila. Le Trésor américain a annoncé jeudi avoir ajouté sur sa liste noire financière le lieutenant général François Olenga, en charge de la garde rapprochée du chef de l'État congolais. Le point avec Eddy Sango.
Le général François Olenga est, selon le communiqué du Trésor américain, accusé d'avoir sapé les processus démocratiques en République démocratique du Congo, en crise en raison du maintien au pouvoir de M. Kabila, malgré l'expiration de son mandat en décembre. Il est aussi reproché à cet officier supérieur d'avoir harcelé des opposants politiques, procédé à des arrestations et exécutions arbitraires et entravé l'action des observateurs de l'ONU. Les avoirs du général Olenga aux États-Unis sont, au terme de la décision, gelés et il ne pourra pas nouer des relations d'affaires avec des entités ou individus américains. Le complexe touristique Safari Beach, situé aux abords de Kinshasa et placé sous son contrôle, est également visé. Il lui est également interdit de venir aux États-Unis. Ces sanctions tombent juste trois jours après celles de l'Union européenne contre neuf autres responsables congolais.
Au Rwanda, la commission électorale rwandaise a décidé d'annuler une mesure controversée qui voulait contrôler les publications sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août. Les détails avec Solange Niamoulissa.
Kalis Mbanda, président de la Commission électorale nationale, a déclaré hier que les candidats pourront publier sur les réseaux sociaux sans soumettre à la Commission électorale. Cependant, il a précisé que s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation et il n'a pas donné les raisons de ces revirements. La Commission électorale nationale avait publié une directive qui obligeait les candidats à l'élection du 4 août de lui soumettre au moins 48 heures avant les messages, photos et matériaux de campagne qu'ils voulaient publier sur les réseaux sociaux. La mesure avait soulevé un tollé. L'autorité de régulation des médias avait déclaré que ce n'était pas du ressort de la Commission électorale. Les ambassades des États-Unis, d'Allemagne et de l'Union européenne avaient publiquement exprimé leur inquiétude. L'opposition rwandaise avait dit craindre que la mesure soit utilisée pour empêcher toute critique du régime du président Paul Kagame pendant la campagne électorale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, les 12 membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ont prêté serment au cours d'une cérémonie officielle à la Cour suprême. La mise en place de cet office permettra, pour citer l'avocat général Chérif Koné, l'opérationnalisation de la lutte contre la corruption. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré revient sur la mission et les objectifs de cette nouvelle structure.
L'Office central contre l'enrichissement illicite va œuvrer pour l'instauration d'une gouvernance saine, juste et transparente. Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite.
L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est un service que l'État du Mali vient de créer pour réduire, sinon éradiquer l'enrichissement illicite à travers des faits de détournement des deniers et des biens publics, à travers la corruption et toutes les infractions qui portent atteinte à l'intégrité du bien public. C'est donc un service de lutte contre l'ensemble de ces méfaits qui portent atteinte au bien. C'est une structure chargée de la prévention. C'est la première fois qu'au Mali, une structure va être chargée de prévenir. Et donc cette prévention va consister en des actions de communication, d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience afin de réduire les cas d'atteinte au bien public.
L'Office, à la différence des autres structures de lutte contre la corruption et la délinquance financière, a une nouvelle méthode d'intervention.
Nous ne ferons pas un contrôle orienté sur une structure de façon générale, mais plutôt un contrôle qui vise spécifiquement des personnes nommément désignées en raison des biens que ces personnes possèdent. Et il s'agit pour nous de réunir des éléments permettant d'asseoir des présomptions et il appartiendra dès ce moment-là à la personne concernée de se justifier. Cette démarche également est innovante et n'existe dans l'attribution d'aucune structure déjà existante.
Parmi les 12 membres de l'Office, 3 sont désignés par le président de la République. Ils sont tous des magistrats. Il y a des représentants de la police, de la gendarmerie, le secteur privé y est représenté, tout comme le monde des finances et la presse.
Nous sommes confiants, nous avons le soutien des autorités, nous souhaitons que ce soutien se poursuive, et notamment dans le sens de la mise en œuvre de l'ensemble des textes, en particulier la sanction de la non-déclaration. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juin 2017, il y a une période de 90 jours qui est impartie à l'ensemble des fonctionnaires assujettis pour déposer auprès de la Cour suprême leur déclaration de biens. Le fonctionnaire qui, au bout de ces 90 jours, ne dépose pas sa déclaration doit être sanctionnée et cette sanction, c'est la révocation.
En cas de non-respect de sa méthode de saisine, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite peut sévir. Moumouni Guindo, président.
Et cette révocation a pour conséquence d'interdire à l'intéressé d'exercer une fonction similaire pendant les 5 années à venir. Nous comptons donc beaucoup sur les autorités pour nous appuyer dans la mise en œuvre de cette disposition qui va rendre définitivement l'Office crédible et tous les citoyens doivent se sentir bénéficiaires des actions de cette structure.
La cérémonie de prestation de serment lance officiellement les actions de l'organe. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Maroc, les manifestations pour la libération du leader de la contestation Nasser Zefzafi se poursuivent au quotidien. Le mot d'ordre de grève générale a été largement suivi jeudi à Al-Oseima, dans le nord du pays. Yacouba Ouédraogo.
Les manifestants, Skanda, nous sommes tous Nasser Zefzafi, ont investi les rues d'Al-Oseima après la rupture du jeûne du Ramadan. Le rassemblement s'est achevé peu avant minuit sans incident. Nasser Zefzafi a été interpellé lundi pour atteinte à la sécurité intérieure. Il dénonçait depuis des mois la corruption du pouvoir marocain et avait interrompu le prêche d'un imam dans une mosquée. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs membres de son mouvement. Leur procès s'est ouvert mardi, mais a été reporté au 6 juin.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.